France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Joséphine Reinhardt, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Après les menaces par Donald Trump d'annexion du canal du Panama, la Caraïbe se sent à nouveau dans le viseur états-unien. Nous consacrons la semaine à cette région dans l'ombre des États-Unis. Nous évoquions hier l'embargo sur Cuba, pas près de se terminer. Aujourd'hui, Haïti, sa dépendance mortelle aux États-Unis, même si le secrétaire d'État de Donald Trump, Marco Rubio, assure que l'île a son destin en main.
Nous ne pouvons ignorer la question d'Haïti. C'est une tragédie, c'est horrible et il faut la régler. Je veux être clair, le futur d'Haïti appartient au peuple d'Haïti. Mais nous allons les aider. Il y a eu des informations erronées sur le rôle des États-Unis et leur soutien à la mission là-bas. La semaine dernière, j'ai signé une dérogation pour m'assurer que nos programmes là-bas continuent. Et depuis vendredi dernier, ils sont actifs et fonctionnent.
J'étais sur le chemin du travail et les policiers américains m'ont demandé si je pouvais venir les voir parce qu'il y a un nouveau président et qu'il fallait redemander certains papiers. Je me suis donc rendu à leur bureau, j'ai vu les menottes et ils ont dit qu'ils allaient me renvoyer en Haïti.
Aujourd'hui, il y a un petit groupe d'individus, pas plus de 5% de la population, qui sont des oligarques, qui se sont alliés avec les politiciens traditionnels, les politiciens corrompus et voleurs. Ce petit groupe est aux côtés des États-Unis, du Canada et de la France. Ce sont ces trois pays qui sont principalement responsables de ce qui se passe en Haïti aujourd'hui.
C'est un discours sur lequel prospère cet homme que l'on vient d'entendre, Jimmy Cherizier, dont le pseudonyme Barbecue ne fait aucun mystère de la barbarie à laquelle il destine ses victimes, lui et les hommes de main des 9 gangs qu'il supervise et qui ont fait l'année dernière plus de 5600 morts en Haïti. Homme insaisissable dans tous les sens du terme, Jimmy Cherizier est à la fois celui qui persécute les civils haïtiens et celui qui dit les défendre contre l'impéritie des puissances étrangères autant que contre leur ingérence. Les États-Unis en particulier, considérant que cet État fragile, du nom d'une autre liste que tient le département d'État à côté de la liste noire dont nous parlions hier et où est inscrit Cuba, que cet État fragile, donc Haïti, représenterait une menace pour leur sécurité. Voilà qui a justifié toutes sortes d'interventions dans la politique haïtienne, de la dictature des Duvalier à la chute, puis le retour du président Aristide, au soutien en 2011 d'un candidat arrivé troisième aux élections, mais qui sera néanmoins choisi comme président Michel Martelly, et ceux qui leur reprochent leur soutien à des élites corrompues leur reprochent aussi de ne rien faire d'efficace pour lutter contre la violence en armes. Alors quelle est aujourd'hui l'attitude de Washington vis-à-vis d'Haïti qui fait face à cette crise gravissime? Peut-on leur reprocher aux États-Unis d'être à la fois trop présents et pas assez? De toutes ces questions, nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Jean-Marie Théoda.
Bonjour,
eh bien,
merci de l'invitation.
Merci, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également en lien avec Fort-de-France en Martinique où il est 6h04 du matin. On est à 1300 km de Cuba, enfin vous êtes à 1300 km de Cuba. Cédric Audebert, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, vous êtes directeur de recherche au CNRS, affecté à l'Université des Antilles en Martinique, enseignant à Sciences Po Paris. Alors, toutes les émissions cette semaine ont commencé par raconter cette façon que Donald Trump et son équipe ont depuis un mois de souffler le chaud et le froid puis le chaud en l'occurrence, puisque le président américain a d'abord gelé l'aide à la mission de soutien à la sécurité en Haïti avant d'annoncer qu'elle serait finalement maintenue. Jean-Marie Théoda, est-ce que vous y voyez une façon de naviguer à vue ou une stratégie délibérée?
Je pense, j'y vois surtout une continuité dans l'horreur, une continuité dans l'arrogance, parce que bien avant de redevenir président des États-Unis et donc de faire souffler le chaud et le froid sur le reste du monde, l'ancien président, donc du temps qu'il était déjà au pouvoir, avait traité Haïti de nom d'oiseau, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, et qui dénotait déjà un singulier mépris pour les faibles. Et donc nous ne sommes pas du tout étonnés par l'attitude de l'actuelle administration américaine.
Quand il dit d'abord on va retirer notre aide à cette mission qui soutient la sécurité en Haïti, mission dont on va largement parler, chapeautée par le Kenya notamment en échange de plusieurs contreparties assurées par les États-Unis au président kenyan. Ensuite on s'est dit finalement non, Marco Rubio qui était en visite en République dominicaine, donc vraiment sur le même territoire qu'Haïti, à l'est de cette même île, il a approuvé finalement une aide de plus de 40,5 millions de dollars à la police nationale haïtienne et à la mission multinationale d'appui à la sécurité conduite par le Kenya. Est-ce que les Haïtiens considèrent cette aide en provenance des États-Unis comme indispensable ou comme une ingérence, Jean-Marie Théoda?
On dit, par sagesse, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Dans un pays où plus de 30% de la population vit avec moins d'un dollar et demi par jour, où il y a plus de 5 millions de personnes qui sont en situation de famine, pourrait-on dire, en tout cas de sous-nutrition, dans un pays littéralement aux abois, il est extrêmement difficile de refuser l'aide d'où qu'elle vienne. Il y a une question de survie, de responsabilité humaine, va-t-on dire. Maintenant, il y a la façon dont cette aide est donnée. On dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Là, ce n'est même pas une main qui donne, c'est une main qui jette. C'est une main qui commence par vous mépriser et après à vous donner quelque chose de mauvais cœur, si vous voulez. Un don est un don. Ici, nous avons l'impression d'abord d'une déclaration performative qui a pour finalité de dire que les Américains ne sont pas responsables du malheur du monde et encore moins d'un pays comme Haïti. Et dans un deuxième temps, de paraître magnanime en disant que finalement nous allons faire un geste et vous devriez nous en tenir, en être reconnaissant. C'est-à-dire, c'est ajouter à l'arrogance l'humiliation imposée par le plus fort au plus faible et cela ne peut pas aboutir à un sentiment de reconnaissance.
Cédric Audebert, est-ce que c'est le volume de l'aide états-unienne qui est en cause ou c'est la nature de cette aide?
Effectivement, dans un premier point, je dirais que je rejoins ce que disait Jean-Marie Théoda par rapport à la relation singulière que les États-Unis entretiennent avec Haïti. Et l'esprit dans lequel les États-Unis entretiennent cette relation.
Je vous en prie, on
vous
écoute.
Les Haïtiens n'ont pas cette vision de l'aide entre guillemets états-unienne. N'ont pas de cette vision, n'ont pas de cette aide une vision quantitative. Les Haïtiens attendent des États-Unis un certain nombre en tout cas savent que les États-Unis sont sont présents dans la Caraïbe. Il y a cette dénonciation de l'ingérence états-unienne permanente dans les affaires intérieures haïtiennes comme une cause structurelle de l'instabilité politique en Haïti. Les Haïtiens ont en mémoire l'occupation militaire états-unienne de 1915 à 1934 et ses effets durables sur le destin politique, économique d'Haïti. Ils ont en mémoire aussi toutes les actions répétées de la communauté internationale que les Haïtiens considèrent comme un groupe de pays qui maintiennent une ingérence à la fois dans les élections haïtiennes, dans les affaires politiques intérieures haïtiennes, dans l'économie haïtienne, dans la diplomatie haïtienne. Mais finalement, ces dénonciations, lorsqu'elles émanent des dilités politiques, peuvent être suspectées de, en même temps, d'instrumentaliser les discours, en tout cas dans les discours, l'ingérence états-unienne, et pour éviter que les projecteurs ne se portent sur leur propre gestion des affaires d'Haïti, et que ne soit mise en lumière aussi la responsabilité des édilités politiques haïtiennes dans la dégradation de la situation actuelle. Donc, si vous voulez, il y a un double discours qui consiste à la fois à dénoncer l'ingérence étrangère, l'ingérence d'Haïti, et en même temps à instrumentaliser cette présence états-unienne en Haïti pour servir des intérêts aussi personnels et pour éviter que ne soit mise en lumière la responsabilité des gens qui sont en place en Haïti sur le plan politique dans la dégradation de cette situation.
Alors que les États-Unis aujourd'hui, dans un discours très court-termiste, mais disent, regardez tout cet argent qu'on vous donne, 40 millions et demi de dollars versés à la police nationale haïtienne et à cette mission multinationale d'appui à la sécurité conduite par le Kenya, elle est là pour vous défendre, elle est là pour défendre la population haïtienne face aux gangs.
Il était 11h ce matin, les bandits sont sortis du Bel Air et il agit de tirs, beaucoup de tirs. Il y a des blessés. Et les bandits sont pillés des choses de populations, de zones, et tout volé. Et nous sommes fatigués. C'est à du tir.
D'accord? Qui tire là?
Je ne sais pas. La police qui est des bandits, je ne sais pas. C'est Haïti.
C'est Haïti, dit cet homme qui s'appelle Gédéon. C'est un habitant du quartier de Bel Air à Port-au-Prince, recueilli par Omar Ouaman de Radio France en juin dernier, dans un de ces grands épisodes de violence qui ont éclaté l'année dernière, mais pas seulement. Jean-Marie Théoda, ça fait déjà plusieurs années que dure cette violence, avec des crises comme ça qui surviennent plusieurs fois dans l'année. Ces États-Unis, quand ils financent, et presque à 100%, cette mission multinationale de pêche à par le Kenya. Déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire sur qui est sur place aujourd'hui pour lutter contre les gangs? D'ailleurs, je ne sais pas si vous parlez de gangs ou de groupes criminels. Je pense que les mots ont leur importance aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est en train d'être fait en ce moment, ce qui est apporté au crédit des États-Unis avant de leur jeter le discrédit?
Je crois qu'il est important de faire très attention aux concepts que l'on utilise, parce que mal nommer les choses, c'est vraiment ajouter au malheur des Haïtiens. Et ici, nous parlons de gangs dans un registre musical. On parle de gangster rap, on parle de... etc. Là, nous avons affaire à des cartels de la drogue qui ont établi leur réseau sur l'ensemble du bassin de la Caraïbe et qui, soit par l'isthme centra-américain, soit par l'archipel des Antilles, atteignent peu ou prou le territoire américain. Nous parlons d'un trafic de plus de 100 milliards de dollars annuels, et un petit pays comme Haïti, avec un PIB inférieur à 10 milliards, est un pays achetable par le premier des barons, mexicains, colombiens ou péruviens de la drogue. Et dans ce scénario, Haïti apparaît comme un trou noir, comme une sorte d'entonnoir, voyez, par où circule une bonne partie de ces produits illicites qui arrivent sur le marché américain, de sorte que les gangs, comme on les appelle, ce sont les bras armés sur place, des barons de la drogue, qui ont besoin d'un État désorganisé, qui ont besoin de créer ce trou noir, justement, pour que tout puisse se faire en toute discrétion, quitte à faire des ravages sur le plan social, sur le plan humain. Vous parliez tout à l'heure de plus de 5000 morts pour fait de banditisme dans un pays où il n'y a ni guerre, ni conflit ethnique, ni conflit religieux, ni conflit même social. C'est pas non plus une guerre des riches contre les pauvres. Donc, ce que je reproche aux États-Unis, c'est de tolérer à quelques encablures, nous sommes à une heure d'avion de la Floride, de tolérer l'introduction dans ce territoire d'armes de guerre qui déstabilisent profondément un État, alors que si ces armes avaient pour origine non pas les États-Unis, mais Cuba, je pense qu'ils auraient trouvé les moyens d'y mettre fin.
C'est vrai que c'est aussi au nom de la lutte contre la drogue que les États-Unis aujourd'hui justifient leurs interventions, leurs ingérences en Haïti, en disant qu'il leur faut s'immiscer dans les affaires haïtiennes quand bon leur semble. Enfin, c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'ils font pour préserver leur propre sécurité. En l'occurrence, parce qu'une partie du trafic de la drogue consommée aux États-Unis transite par Haïti, et c'est un trafic qui s'articule d'ailleurs avec celui des armes, lesquelles armes viennent très souvent des États-Unis, comme le rappelle ici le président par intérim d'Haïti, Leslie Voltaire, sur TV5 Monde.
Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien. Et aussi, les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogues qui vont aussi en Haïti.
Cédric Audebert, est-ce qu'on peut dire qu'en Haïti, les deux groupes qui se font face, que ce soit les milices et les policiers face à eux ou toutes les forces de sécurité, ont les mêmes armes qui proviennent pour la plupart des États-Unis ?
Oui, alors, du point de vue de du rôle des États-Unis dans ce trafic d'armes, ce que l'on peut dire, c'est que Haïti est devenu un marché incontournable pour ce trafic d'armes organisé depuis les États-Unis. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce trafic d'armes se fait via des marchands d'armes de la diaspora qui les font entrer de différentes manières, hein, par des petits avions, par conteneurs, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que localement, on a un certain nombre d'acteurs, quelques familles bien connues en Haïti. On a un certain nombre de personnes également émanant des milieux politiques, et puis vous avez les fameux gangs dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, tout ce petit monde-là s'entend finalement pour en local organiser ce trafic venu des États-Unis. Et puis il y a les États-Unis, mais faut pas oublier qu'on est on est dans la Caraïbe, et donc on a une articulation entre ces réseaux de trafic d'armes venant des États-Unis, à partir notamment, pas seulement, mais notamment de la diaspora. Et puis vous avez aussi ces réseaux régionaux de trafic d'armes qui arrivent en Haïti par la République dominicaine, par la Jamaïque ou par différents pays d'Amérique centrale. Et donc c'est ce qui rend la situation extrêmement compliquée, d'autant que ce trafic d'armes est aussi une source rentière croissante pour les gangs, on l'a dit, mais également pour l'État. Et puis il y a une sorte aussi de jamaïcanisation de la vie politique haïtienne depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, où vous avez des politiciens qui ont fourni aux gangs des armes pour pouvoir contrôler les zones électorales aussi. Donc c'est tous ces éléments-là qui, pris ensemble, expliquent le développement de ce trafic d'armes en Haïti. Jean-Marie Taud a parlé de trous noirs tout à l'heure. Je pense que c'est effectivement une bonne image pour rendre compte de la situation actuelle.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dit que plus de 80% des armes saisies en Haïti entre 2020 et 2022 ont été fabriquées aux États-Unis ou importées des États-Unis, et qu'aujourd'hui, un Haïtien sur 20 à peu près possède une arme. Donc comment les différentes missions de sécurité en Haïti vont-elles pouvoir lutter contre ce trafic d'armes ? En ont-elles d'ailleurs le mandat ? En ont-elles les moyens ou la volonté ? Jean-Marie Théoda, pour dire peut-être un dernier mot de cette mission qui est toujours sur place, chapeauté encore une fois par le Kenya, qui par ailleurs accueille de son côté des bases militaires états-uniennes et britanniques, a obtenu la garantie d'un soutien des États-Unis pour obtenir de nouveaux prêts du FMI en échange de cette mission et d'une politique d'austérité qu'il a menée. On a déjà eu l'occasion de parler dans Culture Monde en septembre des hausses d'impôts qu'il a faites, qui ont provoqué de très très grandes manifestations dans son pays. Toujours est-il que le Kenya a envoyé beaucoup d'hommes en Haïti, et qu'on se disait c'est peut-être mieux cette solution là, cette mission des Nations Unies, mais c'est pas une mission des Nations Unies, elle a été décidée par les Nations Unies, mais ce n'est pas une mission comme celle qui est restée en Haïti entre 2004 et 2017, qui a laissé très mauvais souvenirs.
Alors, le paradoxe de la situation, c'est que Haïti fait partie des territoires les plus aidés de la Caraïbe, du tiers-monde de façon générale. Aide au développement, aide publique au développement. On a parlé à un moment donné de République des ONG. Il y avait plus de 20 000 ONG en train d'opérer sur le territoire après le tremblement de terre. Donc,
ça, avec la fin de l'USAID, d'ailleurs, beaucoup vont partir.
Beaucoup vont devoir partir.
De l'aide.
On sait qu'il y a donc. Et on peut dire aussi qu'en 2010, il y a eu un tremblement de terre à Port-au-Prince, mais c'est le monde entier qui a tremblé avec Haïti. Il y a une grande empathie autour de ce territoire. Et pourtant, force est de constater que Haïti est un pays existentiellement seul. C'est-à-dire, nous avons traversé l'histoire dans la longue durée en ne pouvant compter sur personne. Ni sur notre voisin le plus proche, qui est en train de construire un mur, pour se séparer, se singulariser définitivement et symboliquement de nous. Ni
la République dominicaine est en train de construire un mur.
Un mur qui fait aujourd'hui plus de 176 km sur les 300, avec une politique de rapatriement forcé de 10 000 Haïtiens par semaine, et ceci depuis le mois d'octobre, et le monde ne dit rien, et ça se poursuit au moment même où nous sommes en train de parler dans ce studio. Il y a des Haïtiens qui sont arrêtés. Il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que Donald Trump. Disons qu'il a fait des épigones et que le président dominicain Luis Abinader a pris, modèle sur l'Amérique, construisant un mur et rapatriant de force les Haïtiens dans des camions grillagés. Et c'est ça, la réalité haïtienne.
Il n'est pas le seul d'ailleurs aux Antilles, en Jamaïque, en Guadeloupe, les Haïtiens sont renvoyés massivement, on en parlera tout à l'heure dans le focus. Est-ce qu'on peut, parce que voilà, on dit à la fois qu'Haïti est laissé tomber, qu'en même temps les États-Unis s'impliquent dans la résolution de la crise politique, notamment récente, quand le Premier ministre par intérim, Ariel Henry, a été empêché de rentrer en Haïti en mars dernier par les gangs, il était coincé à Porto Rico, territoire des États-Unis qui a un statut particulier d'ailleurs, mais toujours est-il que les États-Unis se sont impliqué dans la résolution de la crise. Cédric Audebert, depuis l'occupation états-unienne d'Haïti de 1915 à 1934, plus d'un siècle après la France, comment résumer en quelques mots 80 ans d'ingérence américaine dans les grandes dates qui ont fait Haïti, ce qu'on connaît, ce qu'on a retenu, les Duvalier, Aristide, comment résumer cette ingérence?
Alors cette ingérence, elle s'inscrit dans une histoire longue. Et depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, mais c'est véritablement l'occupation militaire états-unienne de 1915 à 1934 qui a véritablement ancré cette ingérence durablement et a changé durablement le destin d'Haïti. Donc on a eu tout d'abord cette intervention, plus que cette intervention, cette occupation militaire états-unienne. Et puis l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés tout au long du XXe siècle ont eu l'empreinte de cette présence états-unienne, de cette ingérence états-unienne, qui dans les élections, qui dans l'orientation des politiques menées par le gouvernement haïtien successif, jusqu'à 1957, où la dictature Duvalier, la mise en place de la dictature Duvalier, Duvalier père et Duvalier fils, de 1957 à 1971, puis 1986, ensuite, lorsque Duvalier fils a succédé à son père, eh bien, la durée de cette dictature ne peut s'expliquer que par le soutien direct ou indirect des États-Unis à cette dictature qui était perçue à l'époque de la guerre froide comme l'un des principaux remparts à l'expansion du communisme. Je rappelle que Cuba n'est qu'à quelques encablures d'Haïti et cet épisode, ce gouvernement Duvalier a été un petit peu aussi la marque de la présence états-unienne dans la Caraïbe, de la lutte contre le communisme à cette époque-là. Et puis ensuite, après Duvalier, la chute de Duvalier et les pouvoirs, les pouvoirs militaires qui ont suivi ensuite sont aussi la marque de la présence des États-Unis dans le pays. Et jusqu'à Aristide et même après, puisque on voit bien que le coup d'État en 1991 qui a renversé Aristide, puis le rétablissement d'Aristide au pouvoir en 1994 sont directement liés à l'implication des États-Unis dans les affaires intérieures haïtiennes.
Qui lui ont demandé ensuite, des contreparties.
Ça a continué jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que les États-Unis ont demandé des contreparties à l'époque à Jean-Bertrand Aristide pour l'avoir replacé au pouvoir 3 ans après avoir aidé à sa chute?
Alors les contreparties ont été nombreuses. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais je vais simplement prendre un exemple qui pour moi est symptomatique de l'imbrication entre les intérêts diplomatiques, géopolitiques et économiques d'Haïti, des États-Unis en Haïti. Jean-Bertrand Aristide, lorsqu'il a été restauré au pouvoir en Haïti en 1994 par l'administration Clinton, l'une des premières mesures qu'il a prises, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, hein, mais l'une des mesures qui, à mon sens, l'une des plus symboliques prises par ce gouvernement Aristide a été la baisse drastique des droits de douane à l'importation d'un certain nombre de produits. Et j'ai notamment en mémoire le riz, dont les droits de douane de mémoire avaient été baissé de 50% à 3%, me semble-t-il. Et donc, livrant véritablement le marché intérieur haïtien aux producteurs rizicoles de l'Arkansas, des Carolines aux États-Unis, et mettant à mal la production rizicole de l'artibonite haïtienne.
Cette vallée agricole fertile dans le centre du pays qui faisait d'Haïti le seul pays caribéen autosuffisant alimentairement et qui s'est effondré depuis. Et d'ailleurs, Cédric Audebert, vous expliquez dans vos travaux que ceci n'a pas pu se faire non plus sans l'aide de femmes d'origine haïtienne, les Madame Sarah de milieux populaires qui faisaient du commerce entre Port-au-Prince et les campagnes, qui ont ensuite internationalisé leur stratégie, d'abord en République dominicaine, puis à Miami, où elles étaient installées et qui ont contribué à tuer la production de riz haïtienne, mais aussi pour se sortir elles-mêmes de la misère. C'est passionnant ce que vous racontez, Cédric Audebert, dans ces travaux. Alors ensuite, cette ingérence a continué. En 2011, les élections, le candidat soutenu par les États-Unis, Michel Martelly, arrivé troisième au premier tour, a pourtant fini par être élu président. Et on a su plus tard, avec les révélations de Wikileaks, les courriers de l'ambassadrice états-unienne à Port-au-Prince qui ont été rendus publics, où elle parlait de l'intérêt des États-Unis à l'époque à lutter contre la résurgence de forces politiques populistes et opposées à l'économie de marché. Bon, on saura plus tard, Jean-Marie Théoda, que Michel Martelly était impliqué dans le vol de centaines de millions de dollars du fonds de Petrocaribe, le programme d'aide vénézuélien. Simplement, cette menace communiste castriste dont Cédric Audebert rappelait qu'elle avait été à l'origine de cette ingérence états-unienne au XXe siècle en Haïti, elle n'est plus là. Donc pourquoi ?
Alors, d'un point de vue géopolitique, nous vivons vraiment ce qu'on pourrait appeler l'après-guerre froide. Au sens que, tant que Cuba et sa révolution était une menace l'intégrité idéologique du bloc occidental, Haïti pouvait être effectivement considéré comme un bouclier, comme le dit très bien Cédric Audebert. Mais maintenant qu'il n'y a plus de menace castriste et que le régime est même aux abois à Cuba, on oublie souvent de le dire, Haïti a changé de statut. C'est devenu l'arrière-cour. C'est devenu, si vous voulez, le lieu où peuvent opérer en toute impunité tous les dogues de l'Empire, à condition de ne pas faire de vagues, à condition de ne pas, justement, menacer les intérêts des États-Unis. C'est une façon de dire que, dans la perspective globale de l'hégémonie américaine, il vaut mieux des bandits et des brigands installés à Port-au-Prince massacrant impunément 5000 personnes. Ceci n'est pas une menace existentielle pour les États-Unis, plutôt que d'avoir deux révolutionnaires cubains sur le territoire.
Mais pourquoi ces responsables politiques qui ont été placés là auraient les mêmes intérêts que les États-Unis, comment les États-Unis, si tant est que c'est leur stratégie, trouvent-ils comme ça sur place en Haïti toujours des personnes pour dire oui, je vais défendre vos intérêts parce qu'ils coïncident avec les miens?
Je pense qu'il nous faut déconstruire le concept d'intérêt national et voir que les cartels, les bandits, les brigands, tout comme les institutions financières, tout comme les organisations internationales, ont une existence transfrontalière, ont des intérêts croisés qui ne coïncident plus du tout avec ceux du pays ou du territoire dont ils sont originaires, et que des hommes politiques haïtiens soient prêts à vendre leur âme pour défendre les intérêts des États-Unis contre espèces sonnantes et trébuchantes, cela n'a rien d'étonnant.
Est-ce qu'on peut parler en ces termes aussi, Cédric Audebert, d'une partie de la diaspora haïtienne, et notamment celle qui est aux États-Unis? Est-ce qu'elle elle aussi agit sur le destin du pays depuis l'extérieur avec heure et malheur, bonheur et malheur?
Bon, on a une présence de la diaspora haïtienne à distance en Haïti et de différentes manières, à travers tout d'abord les transferts financiers, puisque les remises financières, les transferts financiers de la diaspora représentent l'équivalent du tiers du produit intérieur brut, mais croissent de manière plus importante, plus rapide que le produit intérieur brut. Et donc, aujourd'hui, ces fonds de la diaspora, c'est la première source de revenus et de devises en Haïti. Et dans des domaines comme aussi cruciaux pour les familles que l'alimentation, la scolarisation, la santé. Et donc, cette présence de la diaspora est tout d'abord économique, mais elle est également politique. Et dans ce qui nous intéresse ici, dans la discussion que nous avons ce matin, puisque il s'agit là d'une force qui agit de l'extérieur sur le destin d'Haïti. Elle le fait principalement de deux manières, c'est-à-dire qu'il y a une action tout d'abord sur la politique étrangère des États-Unis, une action de lobbying dans des espaces comme le Congrès, par exemple, qui a notamment abouti au départ de Duvalier en 1986, mais également au retour d'Aristide en 1994, on en parlait tout à l'heure. La diaspora a été l'un des acteurs, pas le seul acteur, mais l'un des acteurs qui a permis justement, qui a œuvré en faveur de ces changements politiques en Haïti majeurs dans l'histoire d'Haïti. Et la deuxième action politique, il me semble qu'elle se fait sur la politique intérieure haïtienne, via le financement des campagnes, via les candidatures aux élections, et avec pour effet une tentative de faire évoluer le rapport de force entre les édilités locales en Haïti et ces forces de la diaspora donc à l'extérieur.
Jean-Marie
Ces deux éléments qui sont complémentaires, en fait.
Jean-Marie Théoda.
Cette diaspora dont, à mon corps défendant, je finis par faire partie.
Ça fait 6 ans que vous n'êtes pas allé en Haïti.
Ça fait 6 ans que je ne peux pas rentrer en Haïti sans risquer ma peau. C'est, disons, à peu près 3 millions de personnes aujourd'hui, avec leurs descendants. Donc, 3 ou 4 générations d'Haïtiens établis à l'étranger, essentiellement à l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, République dominicaine, les départements français d'Amérique, la Guyane en tête, et aussi l'île de France. C'est 4 milliards de dollars de transferts annuels, et comme le dit très bien Cédric Audebert, c'est la première source en fait de revenus du pays intérieur, c'est ce qui fait vivre ce pays. C'est donc une force, effectivement. Mais, paradoxalement, c'est aussi notre faiblesse. Parce que 85% des Haïtiennes et des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. C'est-à-dire que cette diaspora, c'est un peu un disque dur externe dans un moment où le disque dur interne bug, il est en panne. Donc il faut tout un luxe de connexion pour pouvoir faire fonctionner quand même la machine. Et moi je vois ça comme une inquiétude. C'est-à-dire il n'est pas normal qu'un pays dépende de ressources extérieures, quitte, même s'il s'agit de nationaux, même s'il s'agit de gens de la diaspora. Et c'est donc une fausse bonne nouvelle qu'il y ait une diaspora riche, opulente, brillante, qui fait parler d'elle à l'étranger. On ne construit pas un pays de l'extérieur, c'est à l'intérieur que nous avons besoin de ces ressources.
Cédric Audebert, quand certains ou certaines haïtiens ou haïtiennes peuvent rentrer en Haïti, ce qui n'est pas le cas de Jean-Marie Théoda, comment ensuite, enfin quand ils rentrent, même ne serait-ce que pour des vacances, comment se passent les interactions entre ceux qui sont restés et ceux qui reviennent pour quelques jours ?
Bon, il y a cette figure du diaspora, comme on le dit en Haïti. Vous savez, vous avez deux acceptions. Vous avez la diaspora telle qu'on l'entend généralement, et puis vous avez la figure du diaspora au singulier. Le diaspora, c'est cet individu qui arrive de l'extérieur, qui a fait quelque temps à l'étranger, qui retourne en Haïti et qui revient en voulant donner une certaine image de lui-même, une image de réussite, une image d'opulence, et d'une certaine manière aussi, lorsqu'il rentre en Haïti, lorsqu'il rentre dans son quartier ou dans son village d'origine, lorsqu'il rentre dans sa famille, il se met en scène. Et il y a une sorte de, dans la relation entre le diaspora, l'individu diaspora, et les siens en Haïti, dans cette relation-là, il y a une sorte aussi de jeu de dupes, au sens où le diaspora va se mettre en scène, sa réussite, l'image de quelqu'un qui a réussi à l'extérieur, en passant sous silence finalement toutes les tribulations, toutes les difficultés qu'il connaît en migration, sur le marché du travail, dans le domaine du logement, la vie difficile que le diaspora haïtien peut avoir à l'extérieur, et puis une sorte de hiatus entre ça, et puis l'image qu'il veut donner, l'image de réussite qu'il veut donner, parce qu'en réalité, par procuration, la migration de ce diaspora, de cet individu diaspora, il veut en faire une sorte de réussite, mais de réussite sociale aux yeux, non pas aux États-Unis, mais aux yeux des siens qui sont restés en Haïti, pour leur dire, voilà, vous voyez, je suis parti en diaspora, j'ai réussi, et donc ce par quoi il est préoccupé quand il rentre en Haïti, c'est le regard des autres. Et puis, je parlais de jeu de dupes aussi, du côté des personnes qui sont restées, des siens qui sont restés en Haïti, parce que eux aussi, d'une certaine manière, se mettent en scène par rapport aux diasporas pour pouvoir obtenir le maximum de d'égards de la part de ce diaspora, également de fonds, pendant que ce diaspora est présent en Haïti, eh bien, il faut aussi qu'il rende à Haïti, ou en tout cas aux siens, les sacrifices que les siens
auxquels ils ont consenti, oui, pour qu'ils puissent partir. Voilà, ce sont des difficultés qu'ils ne pourront plus, pour certains, cacher à leur famille restée en Haïti, puisque beaucoup sont aujourd'hui menacés d'expulsion depuis le retour de Donald Trump, qui, outre que ce sont eux, les immigrés haïtiens, qu'il a accusés lors d'un débat contre Kamala Harris de manger des chats et des chiens dans les rues de Springfield, a aussi fait savoir qu'il voulait remettre en cause la protection temporaire dont il bénéficie depuis plusieurs années. La République dominicaine non plus ne veut plus accueillir les Haïtiens, nous disait Jean-Marie Théoda, et aux Antilles aussi, ils sont beaucoup rejetés. C'est ce que nous expliquera Sébastien Nicolas juste après cet artiste haïtien, Paul Beaubrun.
Côté l'amour, côté la foi, côté lumière, qui la font qu'elle. Ce c'est nous yo, t'es gourmet pour nous. C'est pas pour grand messie que yo te fait ça. Chaque fois m'gade, cadeau de l'ivranso, quatre gens peuvent qu'un chanson. Est-ce qu'il y a beau,
Kayla Mandé Ouzé, ça veut dire la maison demande à être arrosée, si j'ai bien compris Jean-Marie Théoda. C'est une chanson de Paul Beaubrun, métaphore pour évoquer le besoin de paix. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur la Caraïbe dans l'ombre des États-Unis. Aujourd'hui, Haïti, une dépendance mortelle et sa diaspora. Chassée des États-Unis depuis le retour de Donald Trump, qui n'a pas l'apanage du racisme d'ailleurs contre les Haïtiens.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Car dans la Caraïbe même, les Haïtiens sont assez mal reçus. Aux Antilles notamment, leur présence en Guadeloupe, en Jamaïque, a entraîné des manifestations dans les années 2000. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas les bienvenus. Bonjour Sébastien Nicolas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques. La Guadeloupe et la Jamaïque, ce sont deux contextes très différents que vous connaissez bien l'un et l'autre. Alors commençons par la Guadeloupe, département français. Quand la Guadeloupe a-t-elle vu arriver des Haïtiens et quelle réaction cela a suscité?
Alors dans la période contemporaine, on a vu les premières arrivées de travailleurs immigrés haïtiens dans les années 60 et surtout dans les années 70. C'était principalement des ouvriers agricoles qui allaient travailler dans les champs de canne à sucre. Et ces premières arrivées intervenaient dans un contexte particulier de conflits entre les coupeurs de canne guadeloupéens, les ouvriers agricoles guadeloupéens, et les propriétaires agricoles blancs. Et dans ce contexte, les Haïtiens vont être utilisés comme casseurs de grève par les propriétaires. Et ces événements ont beaucoup marqué les esprits à l'époque. Et c'est aussi à l'époque qu'on a associé les immigrés haïtiens avec le travail de la canne et le fait d'être coupeurs de la canne.
Avec quelques années plus tard, au tout début des années 2000, quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, alors il n'est peut-être pas le seul, mais en tout cas c'était un présentateur de télévision un peu trumpien avant l'heure, Simon Ibo. Quel a été son rôle?
Oui, tout à fait. Alors Ibo Simon, c'est un homme politique guadeloupéen issu d'origine modeste de Pointe-à-Pitre. Il est devenu animateur de télévision, d'une télévision locale pirate appelée Canal 10 dans les années 90. Et puis il s'est lancé en politique au début des années 2000 notamment, et au fil du temps, ses émissions de télévision quotidienne ont pris des accents populistes et xénophobes. Et en 2001, il a particulièrement ciblé la diaspora haïtienne en les ciblant quotidiennement dans des propos extrêmement violents. Il a lancé des appels quotidiens à l'extermination des Haïtiens en disant qu'ils volaient les emplois des Guadeloupéens, qu'ils faisaient du vaudou, qu'ils étaient sauvages et barbares. Et il les traitait quotidiennement de vermine et de racaille, ou encore, pour le citer dans une de ses émissions, je le cite, hein, « un chien a plus de valeur qu'un Haïtien ». Donc vous voyez ici la violence du propos. Ces propos qui ont eu un écho très important parce que son émission a eu un gros succès. Une précision également, Ibo Simon s'attaquait principalement aux Haïtiens, mais aussi à certaines autres communautés caribéennes comme les Dominicais et les Dominicains.
Et est-ce que la classe politique guadeloupéenne a plutôt essayé de calmer le jeu ou au contraire a pris des décisions dans la mesure de ce que lui permet le statut de la Guadeloupe pour restreindre l'immigration haïtienne?
Alors, dans un premier temps, durant l'affaire Ibo Simon, la classe politique guadeloupéenne, globalement, est restée plutôt passive, parce qu'il y a eu une dynamique très forte en faveur d'Ibo Simon et que, du coup, les partis politiques traditionnels sont plutôt restés silencieux par peur de contredire et de s'attirer les foudres de leurs électeurs. Ibo Simon a été poursuivi en justice par un collectif d'associations haïtiennes et de collectifs de droits de l'homme. Il a finalement été condamné en justice, mais effectivement, ses propos sont restés dans les esprits et la position dominante dans la classe politique guadeloupéenne, c'était de dire que Ibo Simon pose les bonnes questions, mais apporte les mauvaises réponses. Et du coup, en 2004-2005, quand le président Aristide Haïti a été renversé, il y a eu une arrivée un peu plus importante d'immigrés haïtiens en Guadeloupe. Et la classe politique locale s'est mobilisée pour faire valoir auprès du gouvernement français l'adoption d'une politique migratoire beaucoup plus restrictive.
Sébastien Nicolas, allez-y. Non, je voulais ensuite que vous nous parliez de la Jamaïque. Le contexte est très différent, mais les éléments de langage plutôt similaires.
Oui, tout à fait, effectivement. Alors, le contexte est différent parce que là, il n'y a pas de communauté haïtienne en soi en Jamaïque. Il y a à peine quelques centaines d'individus qui résident légalement sur le territoire. Le fait marquant dans l'histoire récente de la Jamaïque, c'est l'arrivée à la même période en 2004 en Jamaïque d'immigrés haïtiens suite au renversement du président Aristide. On a environ un millier de personnes qui ont fait la traversée en bateau vers la Jamaïque depuis Haïti. Et dans le discours politique jamaïcain, on a eu deux phases dans l'accueil des Haïtiens. Au début, on avait un discours très fraternel qui disait que les Haïtiens étaient des frères, qu'Haïti, c'était la première république noire, le symbole de la lutte contre la colonisation et un symbole d'émancipation des peuples noirs. Et donc que la Jamaïque allait répondre à son devoir humanitaire en accueillant ses frères haïtiens. Et puis cette position de l'administration jamaïcaine a évolué au fil du temps. Il y a une ligne plus dure qui s'est imposée au fil du temps. Et les Haïtiens ont alors été progressivement présentés comme une charge financière insupportable pour la société jamaïcaine, mais aussi comme une menace pour la stabilité sociale et puis comme une source potentielle de maladies infectieuses. Et ce glissement sémantique, il s'est traduit par un changement dans le traitement des Haïtiens qui ont été quasiment tous expulsés du territoire en dépit du contexte Haïti. Sur les 1000 personnes qui ont le millier de personnes qui s'est réfugié à Haïti, il y en a à peine une dizaine qui ont eu officiellement le droit au statut de réfugié.
Et est-ce qu'on peut parler, Sébastien Nicolas, de racisme aux Antilles, que ce soit en Guadeloupe ou en Jamaïque, si on s'en tient à la couleur de la peau, la population est majoritairement noire, et pourtant on parle de racisme anti-haïtien?
Oui, effectivement, il y a des discours racistes, et je pense que par exemple, Ibo Simon a une belle illustration, il parlait d'ailleurs du fait que, en parlant des Haïtiens, que c'était des Noirs contre des Noirs, et que les Noirs allaient s'infiltrer chez nous, pour le citer. Donc c'est quand même des propos qui sont là aussi très forts. Si vous voulez, les stéréotypes qui sont associés aux Haïtiens, en tout cas les stéréotypes négatifs, sont étroitement liés au discours colonial qui historiquement a stigmatisé Haïti et elle a associé à des corps contaminés, souillés, à des corps barbares et primitifs qui n'ont pas la légitimité pour prendre leur destin en main et puis enfin des corps qui seraient miséreux, trop noirs, trop primitifs. Et ces différents stéréotypes, on les retrouve dans les espaces politiques locaux, que ce soit en Guadeloupe ou en Jamaïque, à travers du coup par exemple les discours que j'ai pu évoquer. Et donc il y a vraiment une forme de continuité entre ce discours colonial et les discours contemporains, et ce qui traduisent en réalité des stratégies identitaires, je pense, face aux stigmates raciales hérités de l'esclavage et de la colonisation dans ces deux sociétés, en Jamaïque et en Guadeloupe. Une stratégie identitaire qui consiste à dire que, à nommer un autre qui serait moins bien que soi pour se dire que nous finalement on est mieux. C'est une stratégie qui a été notamment très bien décrite par Frantz Fanon qui disait j'ai besoin d'une personne plus noire que moi pour dire que moi je suis mieux que la personne désignée par comme mauvaise par le discours colonial.
Se hisser soi-même dans la hiérarchie sociale et coloniale. Merci beaucoup Sébastien Nicolas pour vos éclairages sur la Jamaïque et la Guadeloupe et la façon dont les Haïtiens y ont été reçus aussi tout au cours du XXe siècle. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Jean-Marie Théoda, c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut parler d'un racisme anti-haïtien, que ce soit dans les propos de Donald Trump, mais aussi de la façon dont on a longtemps parlé des porteurs de virus du sida, par exemple les 4H homosexuels, héroïnomanes, hémophile haïtien, mais un racisme anti-haïtien dans les Caraïbes, et y compris, comme vous nous le disiez tout à l'heure, en République dominicaine, c'est-à-dire vraiment sur la même île, ça paraît, vu d'ici, ça paraît incompréhensible.
Au risque de vous effaroucher, j'irai encore plus loin pour dire qu'en Haïti même, on peut parler de racisme entre haïtiens, avec ceux qui sont plus clairs de peau, ceux qui se sentent plus blancs que les autres. Et donc, disons que c'est un mal assez banal dans la Caraïbe, assez vulgaire en fait, et qui est le contre-champ de l'admiration dont les Haïtiens font l'objet au niveau des élites, au niveau des intellectuels, au niveau de ceux qui savent. Donc, c'est un préjugé qu'il faut mettre sur le compte du manque d'éducation, en fait, de l'ignorance de populations largement abruties par la propagande coloniale, par la propagande raciste, ambiante. Et c'est le contraire qui aurait été étonnant. Donc que les Haïtiens soient appréciés à leur juste valeur par des gens qui n'ont aucune forme d'éducation pour pouvoir apprécier vraiment la valeur d'Haïti.
Jean-Marie Théoda, je voulais conclure avec vous sur un autre sujet très important pour Haïti, qui est celui que la France, celui de la dette de la France vis-à-vis d'Haïti. Il se trouve que Leslie Voltaire, le président de transition, était en déplacement à Paris fin janvier, qu'il a profité de ce séjour en France pour manifestement demander à Emmanuel Macron de rembourser à Haïti la dette. En Haïti, on parle de rançon de 150 millions de francs que la France avait exigé d'Haïti en 1825 en échange de la reconnaissance de son indépendance, qui certes avait eu lieu 24 ans plus tôt, les Haïtiens avaient battu les troupes napoléoniennes, mais la France a dit à Haïti, c'est une manière de dédommager les colons, donc 150 millions qui en valent aujourd'hui 525 millions. Emmanuel Macron a dit qu'il ferait une annonce en avril, le 17. Où en est ce dossier-là? Est-ce que vous avez l'impression que cette affaire-là a été entendue?
De toute façon, nous en Haïti, nous ne sommes pas dans l'attente de l'oracle, comme si Emmanuel Macron allait sortir une annonce tonitruante qui pourrait solder définitivement la question. Non, je pense que ça va être un processus extrêmement long. C'est l'ouverture d'une boîte de Pandore dont il nous faut démêler un à un les nœuds. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que dans le cas d'Haïti, nous parlons d'une situation paradoxale où c'est le vainqueur qui doit verser une indemnité au vaincu. Comme vous le dites, après la victoire haïtienne du 18 novembre 1803 à la bataille de Vertières, les Français vaincus ont évacué l'île qui est devenue indépendante au 1er janvier 1804 et 20 ans plus tard, on nous demande de verser une indemnité pour dédommager les descendants de colons alors que rien n'a été envisagé en Haïti même pour dédommager ces anciens esclaves qui ont travaillé pendant plus de 300 ans à titre gratuit avec tout ce que cela comporte de vexation, de traitement inhumain. Donc voilà les racines profondes de ce racisme dont les Haïtiens sont victimes à l'intérieur même de leur territoire parce que jusqu'à date, rien n'a été fait pour reconnaître le dommage subi par les anciens esclaves et rien n'a été fait pour les dédommager vraiment pour le travail accompli.
150 millions de francs de l'époque qui valent aujourd'hui 525 millions d'euros. On aura, paraît-il, une réponse le 17 avril à cette affaire. 17 avril, date anniversaire bicentenaire de cet accord de 1825. Merci beaucoup Jean-Marie Théoda d'avoir été avec nous et merci à Cédric Audebert qui était avec nous depuis Fort-de-France en Martinique. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez en Italie ce matin, Catherine, où le gouvernement ne digère pas une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'État italien avait été condamné fin janvier par la CEDH pour son inaction pendant des décennies face aux dépôts de déchets toxiques par la mafia, par la Camorra, près de Naples. Eh bien aujourd'hui, le gouvernement songe à faire appel, annonce le journal napolitain Il Mattino et le quotidien catholique Avvenire, alors que l'État italien donc n'a pas protégé ses habitants, comme le rappellent en chœur le journal local Caserta News et le magazine italien La Via Libera, spécialiste de la mafia. Pour prendre l'ampleur de ce phénomène, le journal britannique The Guardian nous emmène entre Naples et Caserte, une région surnommée la Terre des Feux, à cause de tous les sites illégaux où sont brûlés à ciel ouvert des déchets toxiques, sans que la population ne connaisse les dangers initialement, l'empoisonnement de l'eau et des terres agricoles. C'est dans cette région qu'a déménagé Marzia Cacciopoli, peu de temps après la naissance de son fils, Antonio. Elle a voulu quitter Naples au début des années 2000 et la pollution de la ville tentaculaire du sud de l'Italie pour en enfin, respirer de l'air pur, confie-t-elle aux Guardian. Mais au fil du temps, elle a remarqué que les enterrements se multipliaient autour d'elle. Des gens de 30-40 ans atteints de cancer. Son fils, Antonio, avait 9 ans lorsqu'elle a remarqué un spasme dans sa jambe et après avoir consulté plusieurs médecins, on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau agressif, précise le quotidien britannique. Antonio est mort en juin 2013 à l'âge de 10 ans. Sa mère, Marzia, fait partie des 41 plaignants qui ont été devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui ont obtenu donc la condamnation de l'État italien, alors que l'écomafia, les crimes environnementaux commis par la mafia, ont rapporté 260 milliards d'euros à la Camorra et autres, comme le dénonce l'ONG Legambiente et Caserta News.
Tutti i governi si sono spesi negli anni per ridimensionare la tragedia della Terra dei Fuochi.
Pendant des années, tous les gouvernements ont minimisé la tragédie de la Terre des Feux, souligne l'écrivain et journaliste Roberto Saviano, spécialiste de la mafia, dans une analyse pour le Corriere della Sera. Mais la CEDH a confirmé cette tragédie. 40% de cancers en plus dans la région près de Naples par rapport au reste de l'Italie. Tout le monde est responsable, accuse Roberto Saviano. Les entreprises du nord de l'Italie qui ont déversé leurs déchets et qui le font encore, les organisations criminelles, la Camorra ou même la 'Ndrangheta, qui baisse les prix pour éliminer ces déchets. Les entreprises se défaussent alors sur les sous-traitants avec qui elles ont signé un contrat et c'est comme cela que des médicaments, des toners d'imprimantes et autres ont été enterrés et brûlés, polluant les sols. Les agriculteurs, sous la pression de la mafia, poursuit Roberto Saviano dans le Corriere della Sera. Les agriculteurs ont accepté de céder leurs terres car ils n'étaient pas suffisamment payés pour vivre de leur travail en vendant à perte à la grande distribution. Cette pollution coûte cher aux habitants, ajoute le quotidien économique Il Sole 24 Ore, avec une région davantage touchée aussi par de l'asthme, des cancers du sein et des leucémies infantiles.
Et le gouvernement de Giorgia Meloni reconnaît des manquements de l'État.
Le ministre de l'Environnement veut apporter des réponses à une terre tourmentée. Il dit aussi réfléchir à la nomination d'un commissaire pour coordonner les efforts sur place, rapporte la Stampa et le journal Avvenire. Mais nous ne voulons plus de communiqués de presse, nous voulons des faits et des actions, demande dans les colonnes du Guardian Alessandro Cannavacciullo, l'un des plaignants de la CEDH. La moitié de sa famille a été décimée par le cancer. Aujourd'hui encore, des monticules de détritus bordent les routes à la périphérie de la ville d'Acera, des déchets de construction, notamment de l'amiante, du plastique aussi utilisé dans la production automobile, des câbles électriques, des vêtements, raconte le Guardian, le tout dans une odeur persistante de déchets récemment brûlés. Certains sont aussi transportés vers la Tunisie, rapporte le journal de gauche italien Il Manifesto et le magazine La Via Libera. Ce dumping environnemental se prolonge aussi de l'Italie vers la Slovaquie, la Turquie et la Bulgarie. Si le gouvernement italien fait appel de sa condamnation par la CEDH, l'association Noi Consumatori réclamera, quoi qu'il en soit, justice pour tous les Italiens touchés par cette pollution, peut-être 3 millions de personnes. Une action collective sans précédent se profilerait alors, explique le journal Il Manifesto, car ceux qui ont subi des dommages ont le droit d'être indemnisés et ceux qui ont pollué doivent payer.
Et pour finir, Catherine, le Bangladesh est sous la pression des islamistes.
Des jeunes filles ont été contraintes d'annuler des matchs de football, indique le quotidien bangladais Proto Malo. Asha Roy, 17 ans, par exemple, était ravie de participer à ce tournoi de foot féminin, raconte la BBC. Mais ses espoirs ont été anéantis lorsque des islamistes ont forcé les organisateurs à annuler ce match dans le nord du Bangladesh. Mais le pays à majorité musulmane traverse actuellement une transition politique après des manifestations qui ont renversé le gouvernement autoritaire l'an dernier, rappelle la BBC, et les groupes islamistes qui avaient été repoussés à la marge pourraient bien être enhardis aujourd'hui, au point que dans l'Inde voisine, l'Hindustan Times se demande si le Bangladesh suit les traces des talibans en Afghanistan. Pour les jeunes filles qui viennent des zones rurales, le football et d'autres sports sont une source d'émancipation, un moyen de sortir de la pauvreté du Bangladesh. Celles qui brillent peuvent être sélectionnées, explique la BBC, au niveau international.
Merci beaucoup Catherine Dutu.